Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Initiative solidaire et citoyenne où on a le plaisir de retrouver Jordan Vial. Bonjour Jordan.
Bonjour Patrick, bonjour à tous.
Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'humain
selon la Kabbalah.
Tout
d'abord, je tiens à vous remercier pour vos retours et l'intérêt que vous portez au merveilleux travail de Radio Bastide et à mes chroniques. Je suis ravie de pouvoir répondre aux questions que vous envoyez sur mon site et je vous rappelle son contact, Kabbalah, kabbalah.fr. Voilà, n'hésitez pas à envoyer vos questions. Dans cette 14e chronique, j'ai retenu justement une de vos questions. Qu'est-ce que l'humain dans l'ordre du vivant selon la Kabbalah ? La question est si vaste que j'ai dû choisir de l'aborder par un des codes traduits par le terme « humain ». Concentrons-nous d'abord sur le vivant. Dans la perspective de la Kabbalah, le vivant n'apparaît pas à partir de la matière. C'est plutôt l'inverse. C'est la matière qui devient vivante lorsqu'elle est traversée par la conscience. Les formes de la matière sont donc des expressions d'un champ de conscience plus fondamental. Le proto-champ, que la tradition appelle parfois Or en Sof, la lumière sans limite, n'est pas une chose ni un objet. C'est une présence de potentialité, un fond de conscience capable de se manifester. Pour que cette conscience devienne perceptible, elle se projette dans des formes du vivant. Chaque forme vivante devient ainsi une manière particulière pour la conscience de se manifester et de percevoir le monde. Dans la vision de la Kabbalah, la conscience se manifeste par degrés dans le vivant. Les formes de vie deviennent comme des vêtements de perception à travers ces formes. La conscience invisible devient expérience vécue. La conscience, pour se percevoir, doit s'inscrire dans une organisation du vivant. Les formes biologiques deviennent alors des structures capables de capter, de transformer et d'intégrer de l'information. Le vivant peut ainsi être compris comme une série d'interfaces à travers lesquelles la conscience devient progressivement perceptible. On pourrait donc dire qu'elle est comme une lumière qui, pour devenir visible, a besoin d'une surface où se refléter. Vous l'avez compris, le vivant est la manière dont la conscience devient visible à elle-même. Peu à peu apparaissent des structures, des organismes, des systèmes capables de sentir, puis de percevoir, et enfin de se percevoir eux-mêmes. Dans cette perspective, l'évolution du vivant n'est pas seulement biologique, elle est aussi une évolution des formes par lesquelles la conscience peut s'apparaître de plus en plus finement. Et c'est dans ce mouvement que surgit une question essentielle. Quelle est la place particulière de l'humain dans cette architecture du vivant ? Si le vivant peut être compris comme l'expression progressive d'un champ de conscience, alors les différentes formes du vivant correspondent à différents niveaux d'organisation et de perception de ce champ. Les organismes les plus simples manifestent déjà une forme d'intelligence. Ils perçoivent leur environnement, s'adaptent, échangent de l'information. Mais à mesure que les structures biologiques deviennent plus complexes, la capacité de perception du champ s'approfondit. Les systèmes nerveux, les réseaux cellulaires, les structures sensorielles deviennent peu à peu des interfaces de plus en plus fines entre l'organisme et son environnement. Dans ce processus, l'humain occupe une place particulière. Non pas parce qu'il serait séparé du vivant, mais parce que son organisation biologique et psychique permet l'émergence d'une conscience réflexive. La conscience réflexive est la capacité de la conscience à se percevoir elle-même. Autrement dit, dans l'humain, le vivant devient capable de se regarder, de se comprendre et d'orienter ses propres processus. Dans le langage de la Kabbalah, cette fonction apparaît dans la structure du code Adam, Aleph, Dalet, Mem, qui mute en même sophite. L'humain n'est pas seulement un organisme vivant, il est une interface consciente entre le champ et les formes du vivant. Sa psyché agit comme un système d'intégration capable de recevoir l'information du champ, la transformer en perception et en pensée, puis la traduire en action dans le monde. C'est pourquoi la question essentielle n'est peut-être pas seulement « qu'est-ce que l'humain ?», mais plutôt « comment l'humain utilise-t-il cette capacité unique de conscience dans l'évolution du vivant ?» Avant de poursuivre dans cette direction, confions-nous à la science des codes. Dans la Kabbalah, l'humain n'est pas défini par sa biologie, mais par ce code, Adam. C'est un code dont la racine est celle du mot Adama, traduit par terre, sol vivant. Cette traduction voudrait nous éclairer sur la place de l'humain dans l'ordre du vivant. Il serait donc un être issu de la terre, inscrit dans la continuité du vivant. Mais la structure même du mot révèle tout autre chose que cette pensée réductrice et matérialiste. Intéressons-nous aux trois lettres du code Adam. Aleph, Dalet, Mem, et à leur structure vibratoire. Chaque lettre se décompose en une combinaison d'autres lettres, qui se redécompose à son tour en d'autres combinaisons, et ainsi à l'infini, formant des spectrogrammes dont les jaillissements vibratoires créent des ondulations, des propagations de chocs de force, entraînant des chocs de forme, réengendrant des chocs de force dans un flux continu. Ainsi, du jaillissement à l'apparition réflexive, ainsi des échos et des ondes de choc à l'infini. Nous voici dans le langage de la conscience. Je vais donc vous donner un aperçu des lettres du code traduit par humain, mais en quelques minutes, je ne peux qu'effleurer la première couche vibratoire. Sinon, on en aurait pour des jours et des jours. La première lettre, Aleph, prononcée dans son déploiement, laisse percevoir une structure de trois lettres. Je vais vous faire le son, mais sachez qu'elle commence d'abord par un silence, donc pour la radio, impossible. Puis de ce silence, on entend A. Ce n'est pas un A comme une voyelle, c'est un petit coup de glotte. A. Toutes les lettres sont des structures consonantiques. Et puis, après ce A, nous avons un L, puis F, et nous entendons Aleph. Aleph est donc d'abord un pur silence. Un silence source, faisant référence au transcendant, à l'indifférencié, à l'infini indicible qui est au-delà de toute représentation. Puis survient un petit coup de glotte. Ah, ah, ah. Une contraction, une force d'hypercompression au sein de cet infini qui va permettre à la lumière du sang fin de se retirer, de créer un espace de désaturation, un vide matriciel, trace vibrante de cette mémoire originelle, trace de tout potentiel en devenir. Et voici la première ombre projetée de cette trace de lumière. L'Amed qui se fait corps du silence, vêtement de l'invisible, danse du voile, animée par le souffle supralumineux. Elle témoigne de la présence. Et revêtant le silence, elle se fait son, vibration, ondulation. Elle devient le jeu de l'animé, animant toute forme de résonance d'elle-même. Elle peut se faire micro-tourbillon, presque imperceptible, ou force cyclonique gorgée d'informations. Elle contorsionne le flux, devient son modulateur, lui donne des directions, forme des cycles descendants jusqu'à son miroir réflexif, où elle s'y fera éclat, rebond, fractal, écho d'elle-même, illuminant et révélant tous les états du champ. L'Amed, en révélant le non révélé, initie l'architecture du champ, contenant le potentiel du vivant, actualisant toute émission de conscience, pouvant habiter, animer, donner forme au vivant, image holographique de cette architecture. Et tourbillonne les cycles du la troisième lettre du Aleph. Par le fait, Aleph se fait souffle. Il devient toute chose et toutes choses sont en lui. Le souffle se connaît en toute chose, en la sensibilité consciente de son animation. Il jouit d'une jouissance infinie dans l'amour et l'union parfaite d'une vérité se reconnaissant elle-même. Grâce infinie du sans-forme qui s'apparaît dans le miroir de son rêve ou par le langage de sa propre conscience, il parle et se répond parce qu'il est le grand alchimiste, le maître du verbe. Ah. Je vais vous épargner les décompositions de chacune de ces lettres et de leur spectrogramme jaillissant. La deuxième lettre de Adam est le Dalet, lettre de la résistance ontologique et cosmique. Elle est comme une respiration en quatre temps, avec ses apnées à plein et à vide, nécessaire pour exprimer le jeu de la compression de la supralumière, avant de la propulser dans des champs de forme, en permettant au sans-forme de se rendre lisible, perceptible, de porte en porte, de seuil en seuil, de monde en monde, dans un infini devenu lisible. La troisième lettre de Adam est le même. L'être matriciel, se refaisant toujours vierge, toujours pure, offerte au jaillissement de nouveaux ensemencements, avant de se faire onde de propagation pour permettre à chaque être né d'elle de s'accomplir en acte. Voici un micro-aperçu du code de l'humain. Alors, pourrait-on l'enfermer dans une définition, lui qui est la formulation de l'être ? L'être qui, dans une goutte de l'océan, dans une seconde d'éternité, se voit, se connaît, se manifeste, se met en acte. Nous ne pouvons mentaliser cette réalité. Seul un ressenti profond et conscient peut nous éveiller à notre vraie nature. L'humain est l'écho du champ, son hologramme, sa cartographie est à l'image de l'architecture du champ. Si le vivant exprime progressivement la conscience du champ, l'humain y introduit cette merveilleuse propriété. Il est sa surface consciente, réflexive. Le champ se perçoit en lui, son miroir. Et l'humain perçoit que, s'il est le reflet du champ, c'est qu'il est le champ. La conscience forme et la présence qui l'anime, l'être lui-même. Et le cœur retrouve sa cohérence, la joie. Et se joue alors la partition d'une révolution, celle de la conscience.
Merci beaucoup, Jordan, et à très bientôt pour
la suite. Merci Patrick, et merci à vous tous.